Je salue chacun dans le beau, ce n'est pas une formule, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous l'avons proclamé à travers les prières comme notre sauveur. Nous avons manifesté notre foi et c'est bien. Et c'est bien. Ce matin, je vais aller directement, je voudrais que nous parlions de l'espérance. Était donné, Corneille a employé ce terme plusieurs fois dans sa prière, l'espérance. Quelle est l'espérance du chrétien? Nous avons souligné qu'avant de connaître le Seigneur, nous n'avions aucune espérance. Nous avions peut-être des espoirs en diverses choses, mais nous n'avions pas d'espérance. Alors maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, qu'est-ce que l'espérance? À quoi ça sert? Dans la marche quotidienne, parce qu'on peut voir ça comme des choses à venir, mais ça résonne maintenant. Mais dans le fond, qu'est-ce que dans l'espérance? Parce que dans le fond, pour ceux qui ont fait une rencontre avec Christ, nous avons connu un temps de repentance, et on en connaît bien après notre marche, notre entrée dans le royaume, et nous avons accepté l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Et notre marche consiste à garder les yeux fixés sur Jésus, à vivre avec l'assurance du salut, libéré du péché. On est appelé à refléter sa vie. C'est un peu l'enjeu de la marche chrétienne pour ceux dont nous faisons partie, je crois, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était offerte. Nous sommes aujourd'hui, collectivement, la fiancée de Christ et nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Alors, mais nous sommes pour l'instant, nous sommes ici. Alors, dans le fond, quelle est notre situation à nous, là, chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ, chrétiens, on va dire, nés de nouveau. Notre cœur a été illuminé. Dieu s'est révélé, la parole est tombée dans nos cœurs. Nous avons bien saisi notre perdition par le fait du péché, qui nous empêchait d'accéder au Père. Nous avons compris le sens de la venue de Jésus-Christ, sa première venue, sa mort pour le pardon des péchés et la réconciliation. Et chacun de nous est en chemin. L'épître de Jean, ce n'est pas mon propos, mais rappelle qu'il y a les enfants qui ont saisi la grâce, mais n'ont pas pour autant la victoire dans toute leur vie. Il y a les jeunes hommes et les jeunes femmes en Christ qui, eux, ont saisi la victoire. Jean nous dit qu'elles ont vaincu le malin. Et puis, il y a les hommes faits, les hommes et les femmes de foi établis qui vivent finalement dans cette communion avec le Père et une communion, je veux dire, régulière. Ce qui n'exclut pas les épreuves. Il n'y a pas de confusion. Vivre une communion régulière avec le Seigneur, avoir une paix, quelles que soient les circonstances, ça a été dit, Seigneur, tu es plus grand que mes circonstances. Avoir cette paix, c'est un fruit finalement de la maturité dans la marche chrétienne. L'espérance est liée à la foi, à tel point que dans Hébreux 11, il nous est dit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » 1 Corinthiens 15 nous dit également que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors ça, c'est intéressant. Qu'y a-t-il donc à espérer au-delà de cette terre? Je crois que le sujet est intéressant parce que souvent, nous marchons, nous avons des difficultés, nous demandons à Dieu de nous soutenir, de nous apporter des solutions. Il nous en apporte, il veut nous en apporter dès ici-bas. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais parce que certaines choses sont déjà accomplies, nous sommes invités à les saisir par la foi, par exemple, l'œuvre de Christ à la croix, Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans, ce sacrifice éternel, nous n'avons plus à l'espérer. Ça a été accompli. Nous avons à le saisir par la foi et à nous l'approprier pour qu'il opère dans nos vies. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Ces réalités qui nous sont rapportées dans la parole de Dieu, nous avons à les croire et je crois que nous les avons cru. Alors, nous sommes sauvés, et nous marchons, nous connaissons des libérations. Là, c'est la foi qui opère pour des choses qui nous sont données dans la parole, mais qui sont accomplies. C'est la même chose pour la résurrection de Christ, pour le ministère du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Ces choses, nous les avons apprises par la parole, elles nous ont été révélées par le Saint-Esprit, nous avons cru, et cela opère des choses. Et c'est ça, la marche chrétienne, nous nous appuyons sur ces choses, pas sur de vagues, non, sur des réalités spirituelles. Dans Colossiens 1, verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge de Dieu que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà des articles, je dirais, de notre foi. Des choses que Dieu a accomplies, qu'il nous a révélées à travers ses prophètes et ses apôtres. C'est des choses qui sont aujourd'hui accomplies, qui sont réelles, auxquelles nous avons cru. Donc, selon rappel, pour distinguer ce qui, en quoi nous avons cru, mais qui est accompli, qui a eu lieu, et qui nécessite d'exercer notre foi, mais il y a des choses qui sont dans la parole, qui nous sont annoncées, mais qui n'ont pas encore eu leur accomplissement, et que nous sommes invités à croire, mais que nous sommes aussi invités à espérer. Parce que quand les choses sont accomplies, il n'y a plus à les espérer. Mais je vais en examiner deux avec vous ce matin, qui ne sont pas accomplies. La première concerne notre salut. Il nous est dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Alors là, ça peut amener des ambiguïtés. Alors on est sauvé, on n'est pas sauvé. C'est en espérant. Nous sommes sauvés. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix est toute suffisante. Son sang a été versé. Nous avons commémoré ce sacrifice merveilleux et éternel par lequel nous sommes sauvés. Notre esprit a été régénéré. Notre âme est renouvelée, elle est en cours de renouvellement au cours de notre marche sur la terre. Elle est en cours de renouvellement. Nous sommes en cours de préparation pour la rencontre avec l'Époux. Mais notre corps aujourd'hui, il est mortel. Aujourd'hui là, vous tous et moi-même, notre corps, il est mortel. Et là, il y a quelque chose qu'il faut creuser. Parce que ça va être très concret pour notre marche chrétienne. Si nous n'avons pas conscience de ces réalités, qu'aujourd'hui notre corps est mortel, mais nous avons, et nous allons lire beaucoup de textes, nous avons une espérance que nos corps revêtiront un jour l'immortalité et l'incorruptibilité, alors dans notre marche aujourd'hui, ça va changer des choses. Nous allons lire un certain nombre de textes, par exemple, Romains 8, j'ai beaucoup de textes à lire, alors je vais essayer de diminuer. Au verset 20, il est dit ceci, Romains 8, verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est intéressant ce texte-là dans la marche chrétienne, parce que si nous ignorons ces textes et cette réalité que Paul nous décrit là, nous allons très vite être découragés. Nous allons très vite être découragés. Parce que oui, nous avons eu la révélation, l'illumination de nos cœurs, nous avons saisi la parole, nous avons compris, nous l'avons lue et nous la lisons, et je vous encourage à continuer à vous nourrir. Mais si nous mettons de côté Nous disons, j'ai la foi, je proclame les vérités, je suis guéri, je suis ceci par ces meurtres. Oui, mais pour l'instant, nous vivons dans un corps mortel. Et c'est ce que nous dit. Et c'est normal, nous gémissons, nous soupirons. Ce n'est pas gémir au sens de se plaindre. Mais Seigneur, Seigneur, nous avons cette espérance. Et il y a une tension. Il y a une tension. L'espérance est liée à la patience. La patience est liée à la souffrance. Romains 5 va nous le dire. Bien plus, nous nous réjouissons des tribulations, des difficultés que nous avons, parce que ces tribulations, ces souffrances produisent la patience, et la patience produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comprenez ces choses-là. C'est important. Je veux être très pratique. C'est pas facile, mais c'est très pratique. Vous comprenez qu'à ce moment-là, l'espérance, ce n'est pas un vague espoir, c'est quelque chose qui va diriger nos regards. Nous sommes là aujourd'hui sur cette terre, nous gémissons parfois, nous souffrons, il y reste, et nous vivons, et nous aspirons, et nous croyons que Dieu opère encore des miracles dans nos corps, et qu'il guérit encore aujourd'hui, mais en même temps, et il y a cette tension, nous savons que ce corps est corruptible, que dans ce corps habite la puissance du péché. Et pourtant, je suis sauvé. Je suis sauvé, en espérance, mais mon regard est tourné vers ses promesses, cette fois-ci, qu'un jour, mon corps sera ressuscité, incorruptible, ou qu'il sera transformé en un instant, en un clin d'œil. C'est un passage que nous allons lire aussi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente encore, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et nous avons déjà des prémices, nous avons les arts de l'esprit, nous avons déjà les prémices de cette vie, et nous disposons déjà, nous qui appartenons à Christ, de la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est capable d'engloutir et de tenir cette chair dans laquelle habite la puissance du péché, de la tenir soumise, de la tenir en silence. Mais nous avons encore que des prémices. Nous aurons la plénitude lorsque nous le verrons face à face, lorsque notre corps aura revêtu l'immortalité. 1 Corinthiens 15, un très long chapitre qu'il faudrait lire entièrement sur, vous savez, ce chapitre où Paul reprend les Corinthiens, et c'est intéressant qu'il parle de ça aux Corinthiens, qui avaient tous les dons, etc., mais qui avaient une conduite qui n'allait pas, parce qu'ils avaient pris des raccourcis. Ils avaient la foi, les Corinthiens. Et il y s'opérait des miracles, des prodiges. Mais ils ont dévié à un moment. Ils ont pris des raccourcis. Ils ont juste oublié que leur corps était encore habité par la puissance du péché. Et quand on oublie ça, la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Mais nous avons cette espérance. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, mais corps. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et c'est ce que nous sommes. Jésus-Christ, ressuscité, élevé aux cieux, a répandu le Saint-Esprit. Et c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit qui a touché notre esprit, que notre être entier a été de nouveau vivifié, rendu de nouveau vivant selon les critères du Père éternel. Et c'est cet esprit vivifié tout à nouveau qui vient renouveler, changer notre âme. Et c'est le travail qui se fait ici sur cette terre. Mais notre corps, ce n'est pas ici qui va être renouvelé. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, ce sera le deuxième sujet d'espérance que je voudrais voir avec vous. C'est important pour notre marche pratique, quotidienne dans notre vie. Parce que si nous perdons cette dimension de vue, si nous croyons que tout est fait maintenant, si nous exigeons de Dieu des choses qui nous sont promises que quand il sera là, la révolte va gronder dans nos cœurs et nous risquons de perdre la foi. Mais si nous acceptons ces choses, et si dans l'humilité qu'amène un corps et notre être qui, où tout n'est pas accompli au niveau de l'incorruptibilité, si nous marchons, alors nous allons marcher avec confiance. Et dans nos faiblesses, nous allons les accepter. Mais pas comme j'entends des fois, « Oh, on n'est que des hommes. » Alors, bon, parce que ça, quand on dit « on n'est que des hommes », alors qu'on a été renouvelé par le Seigneur, ça veut dire, bon, c'est pas tout à fait son truc, donc, bah oui, je tombe, je pêche. Mais non ! Il nous a donné de quoi vaincre le péché. Cette victoire-là, nous pouvons l'avoir maintenant. Parce qu'il nous a donné l'esprit de vie. Donc la victoire sur le péché, nous n'avons pas à attendre le retour du Seigneur. Donc ça paraît humble comme ça de dire « Oh, nous sommes que des hommes, je suis qu'un pauvre pécheur. » Mais ce n'est pas humble, c'est de l'incrédulité par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Par rapport à ce qu'il a, ce qui est, cette fois-ci, accompli. Il est mort à la croix. Son sang a coulé pour me purifier de tout péché. Il m'a pris avec lui dans sa mort. Je suis allé avec lui au tombeau, mais je suis ressuscité avec lui. Et il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tout ceci est accompli. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et que nous avons à vivre, oui, en nous l'appropriant par la foi, parce que Jésus-Christ n'est plus là. Et si nous le connaissons aujourd'hui, nous ne le connaissons plus selon la chair, mais selon l'Esprit qui s'est révélé dans nos cœurs. Ce que je dis, frère, au verset 50 du 1 Corinthiens 15, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, les morts en Christ, incorruptibles, et nous qui serons restés là, pour la venue du Seigneur. Alors je ne sais pas si nous, nous serons là lorsque le Seigneur reviendra. Si nous ne sommes pas là, si nous sommes morts, eh bien nous ressusciterons, et cette fois-ci avec un corps incorruptible. Et si nous sommes là, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été englouti dans la victoire. Ô mort, où est la victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 58 de Corinthiens 15, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Tout ça pour être encouragé à marcher dans l'état où nous sommes aujourd'hui, je veux dire dans l'état de notre corps, mais notre esprit bien branché sur les Saint-Esprit que le Seigneur a répandu et nous a reconnecté avec le Père, continuant ce travail de renouvellement de nos pensées, de notre âme, de nos émotions pendant cette vie sur les terres, pour être prêt lorsqu'il reviendra. Et ça, c'est le temps des fiançailles. Le temps des fiançailles, c'est un temps d'attente. C'est un temps où il y a une promesse qui est donnée, mais nous ne la vivons pas encore pleinement. Il y a une promesse, il y a un temps. Il y a une tension. Je le dis et je le dirai souvent, la marche chrétienne, comment dire, c'est une vie en tension. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la paix, mais c'est une vie en tension. Ce n'est pas une vie cool. C'est une vie, il nous est dit, soyez vigilants, veillez, priez. Combien de fois ça nous est dit? Veillez, priez. Qu'on soit enfant en Christ ou qu'on soit mature, il faut continuer de veiller et prier. Parce que il y a ce corps de la chair dans lequel habite la puissance du péché. Mais nous avons dès aujourd'hui, nous qui avons cru, la puissance de vaincre le péché et de marcher dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Nous avons déjà ces prémices. Nous sommes une ambassade. Mais pour l'instant, le roi n'est pas là. Il est dans le ciel, il règne, il a vaincu, il a dépouillé Satan de toute autorité, mais pas de la puissance pour l'instant. Ce sera un peu plus tard. Le deuxième point que j'aurais, deuxième thème d'espérance, ça c'est un premier thème, mais extrêmement important pour la marche quotidienne. Le deuxième thème concerne effectivement le retour, on parle souvent du retour du Seigneur, mais il vient pour quoi? Il revient pour quoi la deuxième fois? Il revient pour régner. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ce n'est pas le tout qui revienne, on va être enlevé, etc. Alors, ne demandez pas toute la chronologie, différentes choses, mais ce qui est certain, nous venons de le lire, lorsque le Seigneur va revenir, il va prendre l'épouse qu'il s'est préparée. C'est ceux qui auront marché, qui auront marché fidèlement, avec patience, persévérance, les yeux fixés sur cette espérance que je viens de donner, qui auront soupiré, gémi, mais qui auront marché, qui auront été renouvelés, qui auront été changés dans leur caractère par le renouvellement de l'intelligence. Il les prendra. C'est annoncé multiples fois, je vais lire quelques passages, dans Jean 14, au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dans Acte 1, au verset 9, Jésus ressuscité, il nous est dit, on aurait bien voulu être là. Pendant 40 jours, il a parlé à ses disciples de ce qui concernait le royaume de Dieu. Il a dû leur en dire des choses. Bon, on a assez de choses à méditer déjà. Hein. Et alors, il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Pas d'ambiguïté. Le Seigneur reviendra, il reposera de nouveau ses pieds dans son corps glorieux sur le mont des eaux viviers. Il se passera des phénomènes tout à fait extraordinaires. Le mont des eaux viviers se fendra, des torrents d'eau jailliront. Enfin, il va se passer des choses extraordinaires. Et il reviendra régner. Il viendra dans un contexte difficile, plus que difficile, pour son peuple hébreu. Je ne développe pas tout ça ce matin, hein, qui sera menacé de d'extermination et qui connaîtra de très très grandes souffrances, de très grands drames, mais le Seigneur reviendra régner. Le règne messianique aussi de Christ est annoncé par les prophètes, en particulier dans Ésaïe. Je ne lis pas tous les passages, d'ailleurs beaucoup de, mais je vous invite à lire Ésaïe 11, Ésaïe 42, Ésaïe 65, il y a de longs passages qui décrivent le règne messianique. Donc ce retour est annoncé. En même temps, une notion importante, on ne connaît pas le moment de ce retour, même si de nombreux éléments doivent nous tenir en éveil. Mais la parole est claire, Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Conséquence, Matthieu 24, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. » La question n'est pas de savoir quand, la question est d'être prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Enfin, dans Acte 1, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais il poursuit, « Mais vous recevrez une puissance. » Notre question n'est pas de savoir quand. Notre question est d'être prêt et d'être à notre place. Que sera ce règne? Eh bien, ce sera un règne avec l'atmosphère du royaume. Justice, paix, et joie. Justice dira jugement aussi. Il y a eu le temps où la patience de Dieu a joué. Le péché n'a pas été imputé, la loi l'a imputé. Le péché ensuite a été expié par la mort de Christ. Et quand le Seigneur reviendra, les choses seront jugées assez rapidement. Ce sera un royaume de paix. Il y aura la paix. Je parle bien des nations. Il y aura la paix des nations. Parce que le roi, le Seigneur Jésus-Christ revenant en gloire, pètera les nations avec une verge de fer. Ça ne discutera pas. J'aurais voulu vous lire un passage sur ce qu'il y a derrière la démocratie. L'énorme manipulation aussi qu'il y a. Il ne va pas venir instaurer une démocratie, le Seigneur Jésus-Christ. Mais son royaume. Il y aura le royaume sur terre. Mais quand il reviendra? Vous voyez que cet article de notre espérance est important. Si nous ne croyons pas à cela, qu'est-ce qui va se passer? Certains pensent cela. Jésus est déjà revenu, pas de second retour. C'est aux chrétiens d'établir le royaume. Alors, oui et non, nous devons vivre, nous, puisque nous avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, vivons entre chrétiens les valeurs du royaume. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront qu'ils sont mes disciples, que le monde reconnaîtra. Le monde ne va pas reconnaître la puissance du royaume de Dieu à je ne sais quelle organisation ou insertion des chrétiens dans des organisations mondiales qui vont décréter la paix. Ce n'est pas du tout ce que dit la parole. Manifestons, nous qui avons reçu Christ en nous, nous qui sommes un royaume, individuellement et collectivement, manifestons les valeurs du royaume. Et ceux qui sont appelés au salut reconnaîtront le royaume. Mais ceux qui continueront, qui ne se repentiront pas et qui se révolteront contre Dieu, comme c'est dit à 4 reprises, au moins dans l'Apocalypse, ne se repentiront pas. Donc, Jésus-Christ reviendra régner, il y aura la paix. Il y aura la paix entre les nations. Les nations montrant Jérusalem, les rois et les responsables viendront à Jérusalem prendre des instructions pour savoir ce qui est juste, ce qui est bon. Le loup mangera avec l'agneau. Je crois ces choses. Je crois. Elles ne sont pas accomplies. Et le Seigneur le dit. Et comme nous savons ce qu'il a fait dans nos cœurs, que nous vivons ses prémices, je crois que le Seigneur Jésus-Christ reviendra régner. Mais d'ici là, et c'est pour ça que c'est important d'avoir bien cette espérance, sinon nous allons faire des raccourcis, nous allons mêler de nous choses qui ne nous regardent pas. Certaines postures ne sont pas justes par rapport à ce retour du Seigneur. À toutes les époques de l'Église, il y a eu ce problème-là. Déjà, dès les Thessaloniciens, certains disaient « Le Seigneur revient ». Paul s'attend au retour du Seigneur, même de son vivant. Il attend. Il attend, il espère. Et ça le motive à courir la course jusqu'au bout, à être prêt. Mais d'autres ont dit, le Seigneur revient, alors maintenant, c'est cool. On n'a plus qu'à attendre, on ne fait plus rien. Non. Dès les Thessaloniciens, et ça a recommencé. Et j'étais touché ces derniers temps parce que des hommes, je me trouvais avec des frères, vous trouvez peut-être que j'ai des positions un peu tranchées des fois, mais vous savez, quand on a vécu longtemps sans le Seigneur, puis qu'on découvre la splendeur de l'Évangile, on ne peut pas le tenir pour rien. Et je disais, et je le rappelais aux jeunes, j'en vois un certain nombre, quelle grâce vous avez de connaître, tout jeunes gens et jeunes filles, la vérité de l'Évangile. Vous avez votre décision à prendre, mais vous avez entendu la vérité de l'évangile de bonheur. Remerciez le Seigneur pour cela. Remerciez le Seigneur pour cela. Rendez-lui grâce. Et puis prenez la bonne décision. Pas parce que vous êtes fils et filles de couple qui marchent avec le Seigneur, qu'il y a un automatisme. Vous avez une décision à prendre par rapport à la vérité. À la vérité, vous avez une réponse à apporter à la vérité que vous avez entendue. Et donc, je partageais ça. Et un frère qui était âgé, mais qui était dans cette situation-là, qui avait connu le Seigneur très jeune par ce milieu, il dit, oh, la vérité. Il dit, j'ai été bassiné toute ma jeunesse par le retour du Seigneur. Et j'ai observé que cet homme, ça m'a donné une clé. Désormais, c'est comme si, bien sûr qu'il y croit. Mais en disant, bon, ça va bien, le retour du Seigneur, mais pour l'instant, il faut qu'on bosse ici. Alors oui, il faut qu'on bosse ici, parce que nous sommes dans le monde, Jean 17. Non seulement, je ne te dis pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie, je les ai envoyés. Oui, nous sommes envoyés dans le monde, mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe comment, pour manifester celle et lumière. Et là encore, il y a une tension, mes frères et sœurs. Il y a une tension, c'est vrai. Il faut marcher. Et cette espérance-là, du retour du Seigneur, nous remet, si j'ose dire, les pendules à l'heure. Sur les temps où nous sommes pour l'instant sauvés, rachetés, glorifiés, sanctifiés, pour marcher, avec la, disposant de la vie de l'Esprit pour être renouvelés. Nous avons tout ça. Nous avons tout ce qu'il faut pour marcher et pour demeurer fidèles. N'en doutez pas, nous avons tout ce qu'il faut pour marcher et demeurer fidèles, mais pour l'instant, le roi n'est pas là. Il est dans notre cœur, il est au milieu de nous, je le crois. Mais il n'est pas dans ce monde. Aujourd'hui, le monde est sous la puissance de Satan. Et Jésus-Christ est venu pour vaincre les œuvres du diable. Mais pas avec les moyens du monde. Je parle avec peut-être un peu de passion de ces choses. Parce que nous sommes là dans des temps. Et Paul dit, il y a quand même des signes sur le retour du Seigneur. Il a dit, mais attendez, à ceux qui ne faisaient plus rien là, il dit, il faut que l'homme impie apparaisse. Pas forcément qu'il soit au pouvoir, mais qu'il apparaisse. Et je crois quand même, nous sommes dans des temps. Il faut que l'apostasie... L'apostasie, c'est quoi? C'est la religion sans Jésus-Christ. On parlera de Dieu, le nom de Jésus-Christ ne sera plus là. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Soyez attentifs, frères et sœurs, à tout ce que vous lisez, à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous entendez, à tout ce que vous vivez, à tout ce que vous fréquentez. Les temps sont mauvais. Vous voyez, dans ce que je vous dis, évidemment qu'il y a cette tension, parce que je veux pas faire du catastrophisme, mais l'enjeu est sérieux. Vous voyez, moi aussi je vis cette tension. Que devons-nous faire, Seigneur ? Marcher humblement. Avec ce que nous avons reçu, pratiquer la justice, aimer la miséricorde, là, dans ceux qui se présentent à nous. Nous ne sommes pas appelés à prendre le pouvoir. Nous sommes appelés à porter l'opprobre de Christ en dehors de la ville jusqu'à ce qu'il revienne. Mais nous avons les yeux fixés sur lui. C'est pour ça que je vous parle d'articles d'espérance. Je ne vous parle pas de l'espérance en général. Je vous dis que nos corps sont des corps de chair corruptibles et qui vont mourir ou qu'on sera transformé. Et je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ revient et qu'il va régner. Et que nous sommes en formation pour régner avec lui pendant 1000 ans. Voilà ce que je vous dis ce matin. En conclusion, j'aurais voulu parler d'un autre sujet, mais ce sera peut-être pour plus tard. Parce que, article d'espérance aussi, au bout de ces 1000 ans, où Satan va être lié, Satan sera de nouveau relâché. Il y a une révélation croissante. L'homme est responsable. L'homme est responsable depuis l'Éden jusqu'au jugement dernier. L'homme est responsable. Nous sommes sous la grâce, mais nous sommes responsables. Regardez, nous avons toute la parole de Dieu qui a été scellée. Les témoins de la foi n'avaient pas tout ce que nous avons. Nous avons tout ça. Nous avons les révélations de Paul, nous avons les mystères qui ont été révélés à Paul et qu'il nous a transmis. Et nous avons ces révélations. Que des deux, il n'en a fait qu'un. Nous avons plein de mystères qui sont résolus dans la parole. Nous avons tout cela, mes frères et sœurs. Donc nous avons une grande responsabilité. Nous sommes au temps de la grâce. Alors demeurons fermes dans la foi, dans la grâce, dans sa parole et dans notre espérance. Nous sommes dans un temps de fiançailles, qui est un temps où la promesse est faite et la préparation est en cours. L'Église sur la terre est la fiancée de Christ, elle est en préparation. Apocalypse 21, verset 9, « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. L'époux vient bientôt chercher une épouse prête qui a patienté en veillant, priant, tenant ferme dans l'espérance, sans faillir et sans prendre de raccourcis. Le festin des noces de l'agneau est prêt pour ceux qui seront trouvés fidèles. » Je vous redis des choses que je vous ai dit, messieurs. Bon, ça m'a un peu emporté. Acceptons cette tension. Elle n'est pas insupportable. Cette tension nous rappelle que lui, le Seigneur Jésus-Christ, a tout accompli, mais que nous sommes en chemin sur cette terre vers notre destinée céleste, en préparation aussi pour régner avec lui. Notre mère, ce n'est pas la reine du ciel, c'est la Jérusalem céleste. Notre mère est la Jérusalem céleste. Sur ce chemin, nous avons un solide roadbook, la parole qui nous aide. Et j'ai essayé ce matin, à travers quelques points, de vous dire, allez voir dans le roadbook là, pour les temps où nous sommes. Oui, nous espérons en Christ pour cette vie sur la terre là. Nous espérons, nous nous réunissons, nous prions, nous supplions. Seigneur, interviens dans telle situation. Et il le fait. Mais, pas seulement. Notre espérance ne s'arrête pas là. Notre espérance est de nous tenir en sa présence, de régner avec lui sur cette terre lorsqu'il reviendra et de faire partie des serviteurs qui le serviront, l'Éternel, lorsque le Fils à qui toute autorité a été remise remettra tout à celui qui lui a confié tout. Alors, Dieu sera tout en tous. Si nous possédons cette espérance-là, nous manifesterons dès ici-bas une paix et une joie autour de nous, sans frustration, car nous serons véritablement notre destinée, ce que nous sommes ici-bas. Et nous accepterons notre corps, qui est parfois un corps d'humiliation, nos limites, nos échecs. Oui, nous échouons. Mais quand nous échouons, ne disons pas, mais je me l'adresse à moi. Oh, t'es un pauvre pécheur, t'as encore raté, machin. Ça, c'est l'ennemi. Mais notre limitation. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et nous prions.